Est-ce que nous croyons avoir fait le tour de Dieu? Non, bien sûr. Qui oserait dire le contraire? Mais je me demande si notre manière d'agir et de penser peut parfois laisser entendre le contraire. On a peut-être le sentiment d'avoir tellement bien intégré la vie spirituelle et la vie d'église dans nos habitudes, dans notre train-train, que finalement on peut estimer avoir domestiqué Dieu, en quelque sorte. J'ai trouvé la formule pour Dieu, c'est bon. Et sans y prendre garde, je pense que ce n'est pas conscient en général, nous pouvons glisser vers l'idée que, eh bien, si je fais X, de toute façon Dieu fera Y. Et donc j'ai ma petite liste de choses que Dieu attend de moi, et tant que je m'occupe de ces choses-là, il n'y a pas de problème. Le tour est joué. J'ai fait le tour de la vie spirituelle et j'ai fait le tour de Dieu. Et si quelque chose n'arrive pas comme prévu, alors forcément c'est du côté de Dieu qu'il y a un problème. Soit il est en colère contre moi, ou bien manifestement il n'est pas sensible à mes prières. Seigneur, pourtant j'ai appuyé sur la touche Enter, je ne comprends pas que je n'ai pas obtenu ceci ou cela. Je caricature bien sûr, mais parfois nous avons besoin d'un rappel que Dieu est libre. Il est absolument libre. Il n'est contraint par rien ni personne, sinon les engagements qu'il a lui-même choisi de prendre. Et le récit que nous allons lire dans quelques instants est l'un de ces textes qui nous rappelle que Dieu est libre d'intervenir comme il le veut, dans nos vies comme dans celles des autres. Nous poursuivons une petite série sur le début du second livre des Rois et le ministère d'Élisée. On arrive bientôt à la fin, il y aura encore une prédication sur deux rois. Je vous invite à lire donc 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 19. Pour ceux qui voudraient suivre dans les Bibles bleues, c'est à la page 362. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 19. Je vous invite à suivre la lecture avec moi. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi pour que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman s'irrita, il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira et se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il repartit en fureur. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison s'il te dit, « Lave-toi et sois pur !» Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit « Par la vie du Seigneur au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit « Dans ce cas, je te prie qu'on me donne à moi ton serviteur de la terre, la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Que le Seigneur me pardonne cependant ceci. Quand mon Seigneur se rend à la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit « Va en paix. » Alors il le quitta. Voilà un récit qui est raconté avec beaucoup de talent, avec des personnages mémorables. Et ce n'est pas étonnant que ce récit soit, je pense, au hit parade des leçons d'école du dimanche les plus populaires. Et ça se comprend, et c'est une bonne chose, parce que ce texte est riche, nous apprend beaucoup de choses. Mais il ne faudrait pas tellement se focaliser sur les personnages si bien décrits qu'on en oublie ce qui me paraît être l'essentiel de ce texte. Et la question que je nous invite à nous poser ce matin est la suivante. Qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu et de sa manière d'agir? Qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu? Et je vous propose de voir 3 idées qui ressortent assez nettement de ce récit. D'abord, Dieu ne se laisse pas impressionner. Ensuite, Dieu ne se laisse pas manipuler. Et enfin, Dieu ne se laisse pas enfermer. Dieu ne se laisse pas impressionner, tout d'abord. Rappelons qu'Israël est plongé dans une période sombre, on a vu ce contexte en étudiant les textes précédents. Période sombre donc marquée par la misère matérielle, on a vu qu'il était question d'une famine, mais également une misère spirituelle. Une grande partie de la population du pays s'est détournée du Dieu d'Israël pour se tourner vers des idoles en tout genre, et les idoles en particulier des pays avoisinants. Rappelons que le monothéisme d'Israël était véritablement unique à cette époque. Et l'élite de la nation ont été en quelque sorte les premiers à entraîner le peuple vers cette apostasie générale, presque généralisée, pas tout à fait, vers ce détournement vers le culte des idoles. Mais dans ce désert spirituel, Dieu est encore présent, c'est ce que nous avons pu voir lors des épisodes précédents. Il agit notamment par l'intermédiaire de ce prophète Élisée, après déjà avoir agi par l'intermédiaire d'Élie, prédécesseur d'Élisée. Et notamment, Dieu agit par des actes de compassion dans la situation personnelle de quelques Israélites qui, eux, sont restés fidèles au Seigneur. Et souvent, il s'agit d'anonymes, véritablement. Leur nom n'est même pas mentionné dans ces textes. Parfois, c'est à très petite échelle, là encore, on l'a vu, que Dieu montre par des actes de compassion qu'il est encore présent et qu'il n'en a pas fini avec son peuple, qu'il a encore des projets pour son peuple. Mais l'épisode dont j'ai fait la lecture nous introduit dans une situation tout à fait nouvelle. On sort, pour un peu, quelque temps, du cadre d'Israël pour que les projecteurs soient tout d'un coup braqués sur un homme qui n'est même pas un Israélite, Naaman, un général, un chef de l'armée du roi d'Aram, c'est-à-dire la Syrie. Dans d'autres traductions, vous avez peut-être le mot Syrie. Effectivement, Aram renvoie tout simplement à la Syrie, avec pour capitale Damas. Naaman, donc, un haut gradé de l'armée syrienne. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un vaillant guerrier, nous dit le texte. Et puis, le verset 1 nous apprend que c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Alors on ne sait pas de quelle victoire syrienne il est question ici, mais le contexte laisse entendre qu'il s'agit d'une victoire contre Israël, puisqu'il est question un peu plus loin d'une expédition syrienne au cours de laquelle une jeune fille, une petite fille israélienne a été kidnappée et emmenée de force en Syrie. Pour les premiers lecteurs israélites de ce texte, donc on peut imaginer leur réaction. Il a été question du reste fidèle du peuple d'Israël jusqu'ici. Tout d'un coup, il est question d'un général syrien à qui, nous dit-on, Dieu a donné la victoire, sous-entendu contre Israël. L'Ancien Testament Si nous connaissons bien l'Ancien Testament, nous ne devrions pas être si surpris que cela. Et nous avons plusieurs exemples de situations dans lesquelles non seulement Dieu montre qu'il est souverain sur l'histoire, souverain sur la marche des événements à grande échelle, mais également qu'il utilise parfois des peuples étrangers pour exercer son jugement contre Israël, ce qui ne veut pas dire qu'il approuve ce que font ces troupes étrangères. Mais nous avons plusieurs exemples de cela au cours de l'histoire d'Israël, et c'est sans doute ce que le narrateur veut nous faire comprendre ici. Un choc donc pour les premiers lecteurs de ce texte. En tout cas, Naaman est un homme de renom, mais il a une souffrance, et non des moindres. Il est lépreux, nous dit le texte au verset 1. Alors la Nouvelle Bible Second, dont j'ai lu la traduction, met ce terme entre guillemets, sans doute à juste titre. En fait, le terme hébreu est un terme générique qui est utilisé pour décrire une maladie de la peau. Et en lisant ce texte, on n'a pas forcément le sentiment qu'il s'agisse de la vraie lèpre à strictement parler. On n'a pas le sentiment que les personnes soient hésitantes à s'approcher de Naaman. Et puis au verset 27, dans le texte qu'on verra la prochaine fois, lorsque le serviteur d'Élisée récupère en quelque sorte la maladie de Naaman, il est dit que sa peau devient toute blanche, ce qui n'est pas un symptôme de la lèpre à strictement parler. Ce n'est pas très important, mais je signale donc qu'il s'agit peut-être d'une maladie plus classique de la peau. Alors on ne sait pas si Naaman a fait le tour des dermatos de Damas, mais il souffre toujours, et la maladie est suffisamment handicapante pour qu'une petite fille de sa maisonnée remarque sa souffrance. Et cette petite fille n'est pas n'importe qui. Le narrateur nous la présente en disant quelques mots de son histoire dramatique. Elle a été enlevée lors d'une expédition syrienne. On ne sait pas si Naaman était personnellement impliqué ou non, mais en tout cas, la Syrie l'était, plusieurs années auparavant donc. Mais pas si longtemps que ça, puisqu'il s'agit encore d'une petite fille, nous dit le texte. On peut se demander si ses parents ont été tués lors de cette même expédition, ce qui ajouterait au drame, ou si elle a été enlevée à ses parents, ce qui y ajouterait également. Bref, cette jeune fille a vécu un drame terrible qui l'a emmenée à devoir quitter de force son pays pour se retrouver en Syrie. Alors c'est vrai, le texte suggère que sa condition en Syrie n'est pas trop mauvaise, toute proportion gardée. Elle est attachée à son maître, elle a assez de liberté de parole pour suggérer une solution à la femme de Naaman. Certains spéculeront peut-être sur le syndrome de Stockholm, j'en sais rien, mais ça n'enlève rien en tout cas au drame qu'elle a vécu. Malgré son jeune âge, cette fillette se souvient que dans son pays natal, un prophète, Élisée, accomplissait des miracles. Elle ne s'en rappelle sans doute pas beaucoup plus que cela, mais elle suggère la chose à sa maîtresse qui en parle, à son mari, et cela parvient aux oreilles du roi de Syrie. Alors je pense que le narrateur est parfaitement conscient de l'ironie de la situation. C'est sur la parole d'une jeune servante, d'une petite fille, que le roi de Syrie va envoyer toute une expédition diplomatique pour faire guérir son général. Manifestement, les dieux de la Syrie ne peuvent rien pour lui, mais le dieu d'Israël lui adresse un signal par le biais d'une petite fille. Et donc le grand général va se mettre en route. On suppose qu'il y a une sorte de paix froide entre les deux pays, même si on voit plus loin que la confiance est loin de régner. En fait, tout au long du récit, on constate que Dieu n'est pas impressionné par les prétentions humaines. Ce n'est pas tant dit directement que assez clairement implicite tout au long du récit. Les autorités syriennes n'ont aucun moyen d'aider Naaman, et donc il faut l'envoyer dans le petit pays d'à côté. Imaginez que, je sais pas, que le président de la République, qu'il faille l'envoyer au Luxembourg pour être soigné parce qu'il n'y a pas moyen de le faire en France, ça ne serait quand même pas très reluisant pour nous, même si je suis sûr qu'il y a très bons hôpitaux au Luxembourg. Le roi d'Israël, en tout cas, est lui-même complètement impuissant et il ne sait pas comment réagir, à part s'inquiéter d'un complot politique. C'est finalement Élisée, le prophète lui-même, qui devra prendre l'initiative d'intervenir et de dire « Naaman peut venir chez moi ». Et là encore, alors on voit que les prétentions humaines font de la résistance. Naaman est prêt, à la limite, il a envie d'être guéri. Il est prêt d'aller emmener toute sa délégation jusqu'à la petite maison d'Élisée. Petite, on suppose, en tout cas il n'y a pas si longtemps, il devait être logé par une dame aisée, donc il n'a sans doute pas beaucoup de moyens. Ce prophète Mais quand ce prophète, pardon, ne daigne même pas se présenter en personne devant le grand général syrien, mais envoie un messager pour dire à Naaman d'aller se purifier dans le Jourdain, c'est trop pour Naaman. Verset 11, Naaman s'irrita, il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira et se tiendra devant moi. Il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu. Il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. » C'est quand même pas compliqué. Déjà que Naaman doit se déplacer dans ce bled perdu pour aller chercher un obscur prophète, lui le grand général syrien, si en plus ce prophète ne daigne pas venir à lui et lui donner la prestation demandée, on marche sur la tête. Mais précisément, et on voit ça tout au long de la Bible, Dieu se plaît à renverser les prétentions humaines. Naaman a dû apprendre l'humilité, et c'est après avoir emprunté ce chemin d'humilité qu'il rencontre vraiment le Dieu d'Israël et qu'il trouve auprès de lui la délivrance. Alors disons-le une bonne fois, nous n'impressionnons pas Dieu. Dieu nous aime, nous sommes très précieux à ses yeux, aucun doute là-dessus, la Bible nous le dit. Nous ne méritons pas cet amour et ce prix à ses yeux, mais dans sa grâce, et parce qu'il nous a créés, Dieu nous aime. Mais nous ne l'impressionnons pas. Il peut être fier de nous, j'imagine. Un peu comme un père est fier de son petit enfant qui apprend à marcher. Mais nous ne l'impressionnons pas. Et face au Dieu de l'univers, ces choses dans lesquelles nous nous drapons et qui peuvent faire notre fierté, ça peut être, je ne sais pas, le métier, le statut social, l'apparence physique, peut-être un rôle dans l'Église. Mais tout cela n'impressionne pas Dieu. Il a créé l'univers, lui. Donc nos petits exploits, réels ou supposés, ne l'impressionnent pas. Même s'il peut se réjouir de ce que nous faisons. Et quand Dieu prend l'initiative dans sa grâce d'entrer en relation avec des hommes et des femmes qui ne le méritent pas, Dieu ne le fait pas comme un chasseur de tête en contactant ces personnes et en disant « Cher ami, j'ai lu votre CV ». Il a retenu toute mon attention. Est-ce que nous pouvons nous voir ? Mais Dieu est plutôt un Seigneur qui, alors que nous étions perdus, loin de lui, l'avions oublié, ou nous étions révoltés contre lui, nous dit « Silence devant l'Éternel !» avant de nous dire, lorsque nous sommes tombés face contre terre, « N'aie pas peur, relève-toi. Tu comptes à mes yeux, à un point que tu ne peux même pas imaginer. » Et cette découverte d'un Dieu souverain qui offre sa grâce est profondément libératrice. Elle nous libère non seulement d'essayer d'impressionner Dieu, et c'est ce que nous faisons lorsque nous essayons de donner à tout prix nous-mêmes un sens à notre vie, mais elle nous libère aussi de ce besoin si pressant d'impressionner notre prochain. Si nous avons reçu par grâce cet amour inconditionnel de Dieu lui-même, comment est-ce que nous pourrions encore nous démener dans tous les sens pour essayer de nous impressionner les uns les autres ? Et Jésus nous invite à suivre un bien meilleur chemin. Aimer Dieu de toute sa force. Et ce chemin, et Jésus le rappelle, il était déjà mentionné dans l'Ancien Testament. Aimer Dieu de toute notre force et choisir d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pas l'aimer parce que nous espérons en retirer quelque chose en retour, mais choisir d'aimer et de se mettre au service de son prochain. Peut-être qu'il faut ce matin que nous arrêtions de jouer à la comédie. Peut-être que certains, peut-être que moi, j'ai besoin de ce rappel. Peut-être que nous avons besoin de trouver une joie nouvelle dans une vie d'humilité. On pourrait critiquer Naaman avec cette attitude. Comment se fait-il que Élisée ne vienne pas se présenter devant moi ? Mais il faut reconnaître qu'il s'est quand même mis à l'école de l'humilité. Ça n'a pas été simple, mais il l'a fait. Il a accepté d'écouter la fillette. Il a accepté d'aller en Israël. Il a accepté d'aller chez Élisée. Et même finalement, il a accepté de suivre l'ordonnance prophétique que lui a faite Élisée. Un bain dans le Jourdain à appliquer cette foi. Il l'a fait. Et on découvre ensuite sa magnifique confession de foi après sa guérison au verset 15. « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Voilà ce que Naaman a compris. Il est passé d'une étape où il voulait mettre Dieu à son service, à cette nouvelle étape où il est prêt à se mettre au service de Dieu. L'humilité et l'expérience de la grâce de Dieu ont conduit Naaman à la guérison, c'est vrai, mais surtout, et le texte met avant tout l'accent là-dessus, à la foi. Il est intéressant de noter dans notre récit que c'est d'abord une servante au verset 2 et 3 qui, et puis d'autres serviteurs au verset 13 qui convainquent Naaman de s'abaisser, d'accepter l'humilité pour trouver le secours auprès de Dieu. Des personnes elles-mêmes habituées à l'humilité et sans doute plus lucides sur la réalité derrière les apparences. Et ça m'amène à cette question que je nous pose. Si un Naaman devait venir à la rue de Sèvres, c'est-à-dire quelqu'un qui est en recherche de secours, du secours de Dieu, mais qui est encore aveuglé par les prétentions de ce monde, qui est-ce qu'il trouvera ici, parmi nous? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui ont renoncé à ces faux semblants et qui vivent, qui s'efforcent de vivre, pas parfaitement, mais qui s'efforcent de vivre selon ce chemin d'humilité que Jésus-Christ a tracé pour nous? Des hommes et des femmes qui se mettent au service les uns des autres et qui sont heureux de le faire. Où trouvera-t-il des personnes qui continuent à bomber le torse, à jouer des coudes, à défendre leur précaré? Je crois que j'ai épuisé les métaphores. Bref, qui continuent à vouloir défendre leur bien propre. Dieu ne se laisse pas impressionner et il ne se laisse pas non plus contrôler. Ce sera notre deuxième point plus bref. Pardon, il ne se laisse pas manipuler. Dieu ne se laisse pas manipuler. Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme, c'était il y a plusieurs années déjà, qui me disait, et il était honnête de me le dire, qu'il en voulait à Dieu. Il en voulait à Dieu de ne pas avoir été exaucé dans telle requête particulière qu'il avait eue. Il estimait que Dieu aurait dû être bien content de toutes ces années de service chrétien, de fidélité dans la vie chrétienne. Et je me souviens de cette phrase, j'ai beaucoup fait pour lui, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ceci pour moi? Alors évidemment, ça m'a tout de même un peu choqué lorsque j'ai entendu cette phrase, mais en y réfléchissant, je dois avouer que parfois je vois chez moi, plus subtilement sans doute, la même tendance. Il est facile de glisser vers l'idée que tout de même, c'est vrai qu'on est sauvé par grâce, etc., mais quand même Dieu nous doit quelque chose. Et ce n'est pas juste si nous n'obtenons pas de sa part ce que nous lui avons demandé, quand nous l'avons demandé et finalement comme nous l'avons demandé. Il est facile d'oublier que Dieu nous a déjà donné plus que ce que nous aurions jamais pu imaginer en Jésus-Christ. On oublie qu'il a consenti à prendre la condition humaine, qu'il est venu jusqu'à nous, qu'il a subi l'infamie de la croix, qu'il a fait de nous sa demeure par le Saint-Esprit, qui nous invite à une relation personnelle de chaque instant avec lui, qui nous promet la résurrection et la vie éternelle. Non, on veut encore autre chose. On a obtenu un royaume et on se plaint lorsqu'on n'a pas obtenu un rouleau de scotch. Dans notre récit, Naaman semble penser que le Dieu d'Israël pourra le guérir. Mais ça doit se passer comme il le souhaite. Et donc il exprime ses attentes au verset 11. Le prophète doit tout de même venir devant lui, lui montrer du respect. Ensuite, il va invoquer le nom du Seigneur, tout de même, et puis agiter sa main et sur l'endroit malade, et basta, tout sera réglé. Naaman vient vers Dieu avec son problème, mais aussi avec la solution. Et nous faisons souvent exactement la même chose. Seigneur, j'ai tel besoin. Mais avant que tu commences à réfléchir à la manière dont tu vas me l'exaucer, sache que j'ai déjà trouvé la solution. Je sais ce qu'il me faut, tu n'as qu'à envoyer l'ordre de virement spirituel. Signe ici, s'il te plaît, Seigneur. Ce n'est pas à Naaman et ce n'est pas à nous de dicter à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Quand Dieu sauve, il le fait souverainement et pas parce qu'il se plie à nos demandes. Et de manière semblable, je me demande si nous avons tendance à rechercher le soutien et le secours de Dieu dans notre vie avec une liste de conditions à remplir. Je veux pouvoir compter sur toi, Seigneur, je m'attends à toi, mais je te préviens, il y a quand même certaines choses qui ne sont pas négociables. Mon travail, on n'y touche pas. Mon train de vie, si possible. Peut-être ma relation sentimentale avec telle personne. Tel projet que j'ai à cœur, tu n'y touches pas, s'il te plaît. Mais Dieu est Dieu, bien sûr. Il nous invite à découvrir une relation authentique avec lui, qui commence par une lucidité sur le rôle de chacun. Il est Dieu et lui seul. Nous sommes ses bien-aimés, appelés à le connaître, à le servir, à trouver notre joie en lui. Il agira dans nos vies comme il le souhaite, et pas toujours comme nous le souhaitons. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement tout n'est qu'arbitraire avec Dieu ? Non. Nous avons deux certitudes au moins. Il fera toujours ce qui est ultimement meilleur pour nous. Et il tiendra toujours ses promesses. Deux puissantes garanties. Une autre manière dont il est courant d'essayer de contrôler Dieu, je crois, c'est en estimant qu'il doit revoir sa copie en ce qui concerne la parole qu'il nous a laissée, ou le message central de cette parole. Au verset 12, Naaman ne comprend pas pourquoi Dieu lui demande d'aller dans le Jourdain alors que chez lui, il y a l'Abana, il y a le Parpar. Et nous, parfois, nous avons du mal à comprendre pourquoi Dieu dit que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus entre lui et nous. Nous avons peut-être parfois du mal à comprendre aussi pourquoi Dieu ne tolère pas patiemment que certains préfèrent l'ignorer ou l'adorer sans Jésus ou l'adorer autrement que tel que Dieu se révèle. Mais là encore, il est libérateur de découvrir et de placer sa confiance dans un Dieu qui est souverain. Il est libérateur de savoir que celui qui sait toutes choses est aussi celui qui a le contrôle de l'histoire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Celui qui a le contrôle de l'histoire, ultimement, c'est celui qui sait toutes choses. Et il connaît aussi notre histoire, et il est souverain sur notre histoire aussi. Et donc, ce n'est pas à nous de lui imposer les conditions de son salut ou de sa délivrance dans telle ou telle situation. Comme si nous pouvions le faire, d'ailleurs. Nous avons besoin de reconnaître à nouveau que Dieu est Dieu pour pouvoir retrouver sa paix et goûter à nouveau à sa délivrance. Dieu ne se laisse pas manipuler, il ne se laisse pas enfermer. C'est notre troisième et dernier point. J'ai dit plus tôt que pour les premiers lecteurs, ce texte a dû faire un choc. Dieu n'est-il pas le Dieu d'Israël qui a choisi ce peuple d'entre les nations ? Comment comprendre alors que Dieu ici soit prêt à guérir un homme qui pourtant est non seulement un païen, mais a même été un ennemi d'Israël ? Incompréhensible. Et là encore, le narrateur souligne un contraste et une ironie. Le roi d'Israël n'a même pas l'idée de prier ou de consulter Dieu lorsque Naaman vient vers lui. On voit cela au verset 7 notamment. Même pas idée de consulter Dieu. Il dit que lui, il n'est pas Dieu, mais ça ne lui vient pas à l'esprit de consulter celui qui est vraiment Dieu. Tandis que Naaman, lui, le païen, a été prêt à venir jusqu'en Israël pour obtenir de Dieu sa guérison. Tout au long de l'Ancien Testament, il y a de nombreuses annonces à l'avance, indications que Dieu, dans ses projets de délivrance, de rédemption, ne compte pas se limiter à Israël. Il a des projets pour la terre entière. Et en quelque sorte, ce qu'il fait pour Israël, c'est en miniature ce qu'il fera pour le monde entier. C'est comme une image de ce qu'il fera à grande échelle. Contraste entre l'ancienne alliance, la nouvelle alliance qui en est l'accomplissement. Il a des projets pour la terre entière et de même que dimanche dernier, on a parlé de flash de grâce que Dieu donne dans une situation particulière. Eh bien ici, on a comme un flash de grâce de Dieu à l'égard d'un non-juif. On aurait pu penser que Dieu commencerait par se révéler à tous ces Israélites qui s'étaient détournés de lui pour adorer des idoles. Il y avait de quoi faire là, en termes de renouveau spirituel. Mais ici, il choisit d'intervenir dans la vie d'un général ennemi. La Bible nous montre que Dieu aime les surprises et les renversements. Je crois qu'on voit cela dans le cœur de Dieu tel qu'il nous est montré dans la Bible. Il aime les surprises et les renversements de situation. Et en même temps, je rappelle, il ne se renie pas. Bien au contraire, il fait ce qu'il avait promis de faire. Dès le livre de la Genèse, Dieu annonce à Abraham qu'il bénira toutes les nations par lui. À bien des reprises dans l'Ancien Testament, ce projet pour toutes les nations est rappelé. Et puis le Nouveau Testament révèle le plein accomplissement de ce projet. Et on voit à la lecture du Nouveau Testament et en découvrant l'Évangile que là où les hommes voient des limites et des impossibilités, eh bien Dieu ne se laisse pas enfermer. Il abolit le mur des séparations entre juifs et non-juifs, nous dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Pour nous qui sommes croyants, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, nous devons nous demander si nous sommes prêts à croire que personne n'est au-delà de la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à croire que ces personnes qui semblent si loin de la foi, que ce soit dans notre entourage ou bien des personnes dont nous avons entendu parler, ces personnes peuvent être demain ses disciples ? Et à ce sujet, il est intéressant de noter à la fois la fermeté et la patience étonnante de Dieu à l'égard de Naaman dans ce texte. La fermeté, parce que Dieu ne s'est pas adapté à la vision du monde de Naaman. Il lui a pas dit, oui, si tu veux, tu peux aller dans le Parpar, dans la Banna, c'est pareil finalement, j'ai créé ces fleuves-là aussi, pas de problème. Il ne lui a pas dit, finalement, je te guéris, mais c'est pas la peine que tu me connaisses, moi, ou que tu m'adores. Il a invité Naaman à changer sa vision du monde pour venir à lui. Dieu n'est pas un Dieu pluraliste. Il sauve comme il a choisi de sauver. Mais dans le même temps, Dieu fait preuve de douceur et de patience. On voit cela au verset 18 et 19. Alors déjà, on voit que si Dieu n'est pas pluraliste, en revanche, il s'intéresse aux hommes et aux femmes de toutes les nations, de toutes les origines. Mais on voit aussi l'étonnante patience dont il fait preuve. Lorsque Naaman demande à Élisée la permission de continuer à accompagner son maître, le roi de Syrie, dans un temple païen, lorsque son maître va se prosterner dans ce temple et Naaman demande en quelque sorte la permission de pouvoir continuer à aller avec lui, et même si lui n'adorera que l'Éternel, est-ce qu'il peut encore quand même aller dans le temple païen? Alors là, on s'attend à tout sauf la réponse qu'on a. On s'attend à ce qu'Élisée le reprenne et lui dise « Mais enfin, Naaman, tu cherches encore à poser des conditions à Dieu? Tu n'as pas appris ta leçon? Tu n'as plus rien à faire dans le temple d'une idole ?» Voilà qui nous semblerait juste. La réponse d'Élisée nous surprend beaucoup. « Va en paix. » Il ne faudrait pas tirer les mauvaises conclusions de cette parole en pensant que ça veut dire que Dieu accepte toutes sortes de compromis entre notre ancienne vie et notre nouvelle. Je pense que ce serait vraiment une mauvaise application de ce texte, surtout à la lumière du reste de l'Écriture. Mais on peut constater plusieurs choses. D'abord que l'attitude de Naaman a profondément changé. Il ne revendique rien. Il implore la compassion de Dieu dans sa situation. Et je pense qu'on doit souligner qu'Élisée ne dit pas « Pas de problème, Dieu est large et tolérant. Ça ne lui pose aucun problème, il est bien au-delà de ce genre de choses. » Non, il lui dit « Va en paix. » Pas la même chose. On est en droit de penser, même si le texte ne nous le dit pas, on est en droit de penser que Dieu a agi plus tard pour que Naaman n'ait plus à entrer dans ce temple païen. Mais il a choisi manifestement d'être patient et bienveillant. Sans doute faut-il prendre aussi en compte le fait que Dieu n'agit pas encore à grande échelle dans le monde païen, comme il le fera plusieurs siècles plus tard, lorsque le Christ ressuscité enverra ses disciples faire de toutes les nations ses disciples. Donc il faut être prudent dans l'application de ces versets, mais on peut tout de même y voir un rappel de la patience de Dieu. Et ça peut nous faire réfléchir, à nous qui sommes chrétiens, engagés dans l'Église, à notre manière d'accueillir des personnes qui viennent de rencontrer le Seigneur. Tout ne deviendra pas évident tout de suite pour ses frères et sœurs, comme tout n'est pas encore évident pour nous. Il y aura certains propos, certaines actions qui pourront nous surprendre, voire nous choquer, pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps. Il ne s'agit pas de tout accepter, mais de considérer que Dieu a été infiniment patient envers chacun d'entre nous. Et sans doute y a-t-il encore des petits bouts de poutre dans nos yeux que nous devrions ôter avant de voir l'éventuelle paille dans l'œil de mon frère ou de ma sœur, pour reprendre l'image qu'utilise Jésus. Maintenant, pour ceux d'entre nous, ce matin, j'imagine qu'il y en a quelques-uns, au moins, qui sont encore à la recherche de Dieu. Je vous encourage à vous demander si, comme Naaman, vous pourriez être libéré des faux-semblants de ce monde et découvrir le Dieu qui est souverain sur l'histoire et souverain sur votre histoire. Peut-être est-il temps d'arrêter, d'essayer de prouver que vous pouvez vous-même être le Dieu de votre vie et de découvrir le véritable Dieu de votre vie. Le Dieu d'Élisée et Naaman, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, est aussi le Dieu des belles surprises. Laissez-vous surprendre par lui. Amen.